Notre relation fonctionne comme une balançoire à bascule. D'abord, l'un de nous deux a le pouvoir, puis c'est au tour de l'autre. Chaque fois que nous nous disputons, surtout si on en vient aux mains, s'il me fait mal, je récupère le pouvoir. J'ai de nouveau le dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de Big Little Lies dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux.
Docteur Lecter, je m'appelle Clarisse Darry. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ? William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de Big Little Lies, un roman de Liane Moriarty paru en 2013 et qui a été adapté en série en 2017. Pour parler de ce titre, je suis aujourd'hui avec Pascal.
Bonjour.
Et avec Manon.
Hello.
Comme d'habitude, ma première question, comment avez-vous découvert ce titre ? D'abord le livre ou d'abord la série ? Et je vais commencer par Pascal.
Alors, j'ai d'abord découvert la série grâce à une amie qui me l'avait conseillé. Et ensuite, pour le podcast, j'ai lu le livre. Donc, d'abord série, puis livre.
Ok. Et toi, Manon ?
Moi, c'est exactement la même chose. D'abord, la série. On ne me l'avait pas recommandé, par contre. C'est juste sur les médias et sur les réseaux sociaux, ça avait fait un énorme buzz. Et j'ai vu le super casting qu'il y avait, donc ça m'a vachement donné envie de regarder.
Comme vous, j'ai d'abord vu aussi la série avant de lire le livre. J'ai d'ailleurs vu la série deux fois. Une fois avec mon copain Hugo et une fois avec ma mère, à qui j'ai recommandé la série et qui a tellement adoré qu'elle a genre enchaîné tout binge-watcher en 24 heures. Donc voilà, et j'ai découvert aussi le livre pour les besoins de ce podcast. Donc parlons du livre. Big Little Lies, ou Petit Secret, Grand Mensonge en VF, est un roman de Liane Moriarty paru en 2014. Tout à l'heure, je me suis trompée, je dis 2013. Liane Moriarty a écrit plusieurs best-sellers et Big Little Lies est son sixième roman. J'ai envie de commencer par un petit point, titre VF. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre, Petit Secret, Grand Mensonge ?
Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, moi, j'ai du mal à retenir le titre en français parce que même quand on en parle entre amis, on dit Big Little Lies. Donc,
je trouve que la série a bien fait de garder le titre en VO,
ouais.
qui semble plus percutant. Le titre français est un peu kitsch, je trouve.
Ouais, un peu, mais je crois que au Québec, la série, elle a été traduite, enfin le titre a été traduit par Petit Secret.
Ah oui, bah comme d'habitude au Québec, hein,
voilà.
Spécialiste de ça.
Mais on vous aime beaucoup les Québécois, ne vous inquiétez pas. Que raconte donc ce roman Petit Secret, Grand Mensonge ? Pascal, peux-tu nous faire le résumé de ce titre ?
Oui, alors bref résumé aujourd'hui. À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la mort. Qui est responsable du drame ? Trois femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des familles recomposées ou décomposées, qui cachent tous de redoutables petits mensonges, se retrouvent au cœur de l'affaire.
Voilà, donc un résumé très efficace. Merci Pascal. Donc justement, oui, c'est un roman qui mélange plusieurs genres, en même temps un peu l'histoire de plusieurs familles, d'une vie de quartier, et en même temps il y a un peu un côté thriller, enquête policière, et d'ailleurs le livre il est un petit peu découpé comme ça. On enchaîne un peu des scènes de la vie familiale ou de la vie de quartier avec des scènes d'interrogatoire en fait de la police et du coup qui donne tout de suite un petit peu un ton dramatique en fait. On comprend que les choses vont mal tourner dans le quartier.
Oui, ça commence effectivement par cette mort dont on ne sait rien.
Ouais, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais
c'est vraiment le fil rouge de tout le roman. Et on découvre à la toute fin le fin mot de l'histoire, c'est ça qui est assez intéressant.
Voilà, et d'ailleurs je crois que le roman, en fait l'interrogatoire il commence environ 6 mois après le début de l'histoire en fait. Genre l'histoire elle commence au moment de la rentrée scolaire, quelque chose comme ça. Et ensuite c'est quelques mois plus tard qu'en fait a lieu le meurtre et les interrogatoires.
Moi ce que j'ai trouvé marrant aussi, enfin en tout cas intéressant, c'est quand j'ai lu le livre et qu'on lit donc ces dépositions en fait des gens qui sont interrogés sans avoir vu la série, parce qu'il me semble pas que ce soit écrit que c'est au cours d'un interrogatoire de police et donc
ouais,
du coup
non,
en fait on s'imagine
théâtre,
pas voilà,
je crois, avec le nom
juste
et
le nom
de points
et du coup ces dialogues qui sont entrecoupés de déclarations et les gens qui parlent de différentes choses, on sait pas forcément qui est qui parce que bah on commence juste le livre et en ayant vu la série on s'imagine donc tout de suite cette ambiance d'interrogatoire, mais au début on a un peu pris de court, on sait pas trop ce qui se passe.
Ouais, c'est ça. Et dans le livre aussi, du coup, quand les personnages parlent, ils font aussi référence à des conflits entre certaines personnes, et notamment entre des mères de famille. Mais justement, c'est au fur et à mesure qu'on découvre qui sont vraiment ces personnes. Et justement, parlons des personnages de ce livre. Il y a toute une galerie de personnages, et dont notamment les trois personnages principaux, qui sont trois femmes. Donc, il y a Madeleine McKenzie, Céleste et Jane. Et donc, ce sont trois femmes qui sont complètement aux antipodes. Il y a Madeleine et Céleste, qui sont deux femmes d'une... Je crois que Madeleine, elle est un peu plus vieille, non? Elle a genre une quarantaine d'années. Céleste est peut-être un peu plus jeune. Non, Madeleine vient de fêter ses 40 ans, d'ailleurs, au début du livre.
Oui, c'est ça. C'est Je pense qu'elles ont à peu près le même âge. C'est juste que Céleste a eu ses enfants un peu plus tard.
Ouais, c'est ça. Et en fait, le livre commence, elles sont déjà amies. Et c'est Jane, qui est beaucoup plus jeune, qui a 24 ans, et qui vient s'installer dans la petite ville côtière d'Australie. Comment ça s'appelle Pickwick? Peewee?
C'est une ville imaginaire, j'ai lu.
Ah, ok.
C'est pas une ville réelle d'Australie, non.
Ok.
Ce qui est curieux d'ailleurs, parce que dans l'adaptation, on en parlera plus tard, mais c'est un autre endroit. Et ouais. En plus, dans le livre, il parle après d'autres villes en Australie qui existent. Il parle de Sydney.
Ouais, voilà, du coup, c'est un petit peu la ville où elles habitent, c'est un peu... la petite ville parfaite de bord de mer, en mode très assez huppée quand même, avec que des familles très fortunées. La plupart des femmes d'ailleurs ne travaillent pas. C'est d'ailleurs un peu un des sujets de conversation, la guerre entre les
mères de famille et les femmes qui ont fait passer leur carrière professionnelle avant tout.
Ouais.
Qui sont assez mal vues finalement.
Finalement, il y a cet argument de mère au foyer versus les mères qui font carrière, mais quand on y réfléchit, quasiment tous les personnages féminins travaillent, parce que Madeleine, elle travaille à mi-temps dans un théâtre, Céleste, elle était dans le droit, mais elle travaille plus, Jane, elle travaille, elle est à son compte, Bonnie, elle donne des cours de yoga, et après,
oui, mais
y a
ce sont
Renata,
pas des carriéristes, contrairement à Renata, qui est vraiment businesswoman, on peut dire, qui travaille beaucoup, qui voyage, qui est pas souvent là, et qui est, voilà, c'est mal vu par les
nounou.
Autres femmes.
Voilà, Juliette.
French nanny.
Voilà. Du coup, le livre commence à la rentrée scolaire. Il y a Jane qui arrive pour déposer son petit garçon de 5 ans à l'école, Ziggy. Et donc, Jane, on comprend qu'elle a un peu un passé trouble. Enfin, on voit déjà qu'elle est mère célibataire, qu'elle est très très jeune. Donc, elle a 24 ans, elle a un petit garçon de 5 ans. Elle fait un peu de tâche en arrivant, en fait, dans le paysage de l'école, dans ses familles huppées à la rentrée des classes. D'ailleurs, du coup, elle arrive avec Madeleine qu'elle a rencontrée sur la route, qu'elle a secourue parce que Madeleine s'était cassée, c'était un peu tordu la cheville. Donc c'est comme ça qu'elles font connaissance. En plus, Madeleine a une petite fille, Chloé, qui a le même âge que Ziggy. Et en fait, en arrivant à l'école pour déposer son enfant, Jane, on la confond tout de suite, il y a Renata, une autre des mères de famille, du coup, dont on parlait, qui vient et qui lui demande « Ah, c'était aussi ta nounou ?» C'est une autre des nounous, quoi. Donc il y a un peu aussi un côté rapport de classe.
Oui, totalement.
Mais surtout que Jane, comme tu le dis, elle est très jeune. Et en plus, la façon dont elle est décrite dans le livre, elle a juste des cheveux plaqués en queue de cheval. Et elle s'habille très simplement. Et donc, du coup, ça clash avec la description, par exemple, de Madeleine, qui a l'air très coquette, ou Céleste, qui s'habille avec des vêtements de marque.
Oui, elle détonne par rapport à la population de l'école.
C'est ça. Et du coup, on en vient un peu à se demander ce qu'elle est venue faire dans cette ville en particulier, ce qu'on va apprendre au fur et à mesure du roman. Jane, c'est quelqu'un donc, de très discret, qui est un peu effacé, etc. Et justement, contrairement à Madeleine, par exemple, qui est une des autres femmes principales du roman, et qui, elle est très coquette, elle a une personnalité...
très exubérante.
Très exubérante. Voilà. Elle est hyper flamboyante, elle n'a pas peur d'aller au clash avec les autres. Tu sens que c'est quand même quelqu'un
qui... Elle sait
qui...
ce qu'elle veut.
Ouais, elle n'a pas peur du conflit, quoi.
Oui.
Et ensuite, du coup...
Mais elle prend sous son aile Jane.
Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, après avoir déposé leurs enfants, du coup, elles vont au café, au petit café qui est sur la plage. Et c'est là qu'elles rencontrent Céleste, qui vient les rejoindre. Et Céleste, elle est décrite comme une femme sublime, mais un peu aussi...
Mais discrète aussi.
Ouais.
Un peu mystérieuse.
Ouais, un peu mystérieuse. Qui est un peu plus effacée et qui n'a pas l'air aussi bien dans sa peau. Et on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a déjà ce...
Une part d'ombre.
Voilà. Voilà,
le trio se forme comme ça. Et
c'est là que commence leur amitié, malgré leur personnalité très différente. Donc le livre commence comme ça. Et c'est après qu'on va un peu rentrer dans la psychologie des personnages. Et en fait, on voit que chacune, même si notamment Céleste et Madeleine ont l'air d'avoir des vies dorées, Madeleine, par exemple, on comprend qu'elle a aussi élevé... elle a une grande fille aussi de 15 ans qu'elle a élevée seule parce qu'elle s'est fait plaquer par son mari à l'époque alors que sa, Sa fille n'était qu'un bébé, Nathan, son ex-mari qui vit toujours dans le coin, qui s'est remarié avec Bonnie, donc une prof de yoga.
Suédoise.
Suédoise, ouais. Genre, la blonde, elle est un peu décrite en mode hippie Bonnie, oui. Quoi. Avec sa longue tresse.
Que Madeleine déteste, du coup.
Ouais, copieusement. Alors que, et l'autre qui est trop gentille et tout, Bonnie, elle est trop en mode super gentille, super bienveillante, super zen. Et du coup, Madeleine, elle pète des câbles à cause de ça. C'est assez drôle. Donc, il y a toute cette histoire par rapport à ça, par rapport au rancœur, par rapport à son ex-mari. Et Céleste, on va aussi apprendre très vite qu'elle a une vie dorée. Elle vit dans une maison, une des maisons les plus
incroyables. Son mari est extrêmement riche, très beau aussi. Ils sont décrits comme le couple idéal avec leurs deux jumeaux.
Trop glamour, trop beau, voilà. Trop parfait. Mais il y a
trop parfait.
Anguille sous roche.
Ouais. Ouais, le mari qui s'appelle Perry, trop beau, trop riche, qui les emmène en vacances, qui a l'air complètement fou amoureux de sa femme. Lui aussi, il a une part bien sombre. Et bon, bah, disons le mot, il bat sa femme.
Ils ont des rapports très troubles l'un envers l'autre, mais oui.
Disons qu'ils sont
ça
tous
finit
deux,
dans la violence.
C'est ça, ils sont tous deux prônes à la violence. C'est une relation d'alternance entre la soumission et le pouvoir. Celui qui bat et ensuite en post-soumission pendant un certain temps. Et c'est un jeu, en fait, malsain qui s'est installé entre eux. Et pas depuis le début de la relation, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est parce que Céleste, elle apparaît pas juste comme une femme battue, parce qu'elle participe à ce jeu. Et en plus, c'était pas comme ça au début de leur relation. Elle en parle à un moment quand elle se souvient de comment ils se sont rencontrés, leurs difficultés d'avoir des enfants, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un peu, de creuser un peu plus cette facette de leur couple.
Ouais, complètement. Bah, au début, tu vois que donc, la première fois qu'il la bat, quand ils étaient plus jeunes, ça arrive une fois. Et au début, elle est très choquée. Elle raconte qu'elle a voulu le quitter tout de suite, mais qu'il s'est mis à pleurer, qu'il s'excuse 1000 fois, etc. Et donc, elle se dit, bon, bah, ce n'est que l'affaire d'une fois. Mais évidemment, comme dans la grande majorité des cas, malheureusement, il va recommencer. Et dans le livre, on a ouais, une escalade de la violence. Au début, ça commence en mode... Il y a des scènes où il lui tient juste un peu fort le poignet. Après, des fois, on voit qu'elle elle se débat, enfin qu'elle le rejette très violemment. À un moment, il y a une scène où ils doivent ranger dans le salon les jouets des
les
enfants.
Les Legos, et il lui balance tout sur la tête.
Ouais, juste parce qu'elle lui a répondu en mode « Pourquoi c'est pas toi qui range ? Pourquoi ça devrait être moi qui range, quoi ?»
Et on voit qu'au fur et à mesure, elle essaye aussi de s'émanciper de cette relation. Mais elle sait pas trop si elle doit le quitter, si elle doit...
Et surtout, elle en parle à personne. Elle en parle pas à ses amis. Madeleine et Jen n'ont aucune idée de ce qui se passe chez elle. Elle pense qu'elle a une vie parfaite, alors que non. Et d'ailleurs, du coup, il va y avoir des très belles scènes où Céleste va aller chez une thérapeute, une psy, pour commencer à parler... de ses problèmes conjugaux, et on voit qu'elle y va sans péril parce que lui, il veut pas y aller, justement.
Ils avaient essayé, et oui, ça n'avait pas fonctionné, parce que, toujours dans cette logique de jeu, les deux s'étaient fait passer pour un couple, c'était arrivé une fois, et finalement, ils étaient parfaits, et ils étaient au-dessus de tout ça, ils étaient en mesure de contrôler la situation, alors qu'en fait, pas du tout.
Bah en fait, c'est un peu ça, avec pas mal de personnages du livre, où on a l'impression qu'ils ont une vie parfaite, ultra glamour, et en fait, dès qu'on creuse eux-mêmes, ils veulent se donner cette impression-là de perfection, alors que personne n'est parfait, et surtout qu'ils ont des vies plus sombres qu'on ne pourrait le croire. Il n'y a pas seulement des problèmes aussi conjugaux, que ce soit avec Madeleine et son ex-mari, ou avec Céleste et Perry. Dans le livre, il y a aussi des problèmes avec les enfants.
Oui, effectivement, une des intrigues les plus importantes se déroule à l'école, où Ziggy, donc le fils de Jen,
qui n'a que 5 ans,
est accusé d'avoir frappé,
étranglé
la fille de Renata.
Voilà.
Mais voilà, donc on n'en sait pas plus, mais le doute plane, on ne sait pas si c'est vrai, mais il se trouve que Ziggy est accusé. Alors qu'en plus, il vient juste d'arriver, du coup Jen, sa mère, est complètement bouleversée par cette affaire.
Et elle est encore plus mise à l'écart par le reste des parents à cause de ça.
Et deux clans se forment, on peut le dire aussi.
Un clan autour de Renata, donc dont la fille s'est fait étrangler, et un camp autour de Madeleine qui prend
le parti de Jane tout de suite, parce qu'elle déteste Renata aussi, il faut le dire.
Ouais. Voilà. Elle n'aime pas le fait que l'autre lui mette à la face son succès professionnel, en mode comme si Madeleine ne travaillait pas, quoi. Ça l'énerve. Et du coup, cette histoire avec Ziggy, ça va aussi énormément perturber Jane, parce que Jane aussi, on va comprendre assez rapidement que le père de Ziggy, c'était pas un
pas quelqu'un de bien.
Non.
Elle parle d'un coup d'un soir, mais on se rend compte que c'est...
C'est louche.
Voilà, c'est autre chose.
C'est très... Ouais, c'est très louche.
Et donc du elle coup, a peur que Ziggy ait pris le tempérament violent de son père. Enfin, voilà, elle se pose plein de questions et ça la met mal.
Ouais. Du coup, il y a toute cette histoire. Et donc, même elle va essayer un petit peu de faire la lumière sur l'affaire. Jane, elle va essayer d'interroger les enfants, d'interroger tout le monde, d'interroger Ziggy. Mais Ziggy, il se mure dans un silence.
Et, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces histoires, il y a une montée en pression jusqu'à la fameuse soirée de Noël.
Ouais.
Qui est là où donc, la personne meurt.
Bah, la soirée, comme il l'appelle, du drame.
Voilà, la soirée du drame. Et en fait, voilà, donc ça commence sur cette soirée. Après, on revient dans le temps, mais on voit que vraiment, il y a une apogée à ce moment-là. Une montée en puissance de toutes ces petites histoires. Et tout explose dans cette fameuse soirée, qui est une soirée déguisée, thème Elvis et Audrey Hepburn.
Ça, c'est quand même drôle.
Assez grandiose, hein, faut le dire. Ils sont tous déguisés. Voilà, donc une soirée caritative pour l'école, où ils doivent lever des fonds pour je ne sais quoi.
Et où finalement, tout le monde se retrouve totalement bourré, parce qu'il y a des cocktails très sucrés, mais avec de la vodka qui apparemment ne se sent pas.
Et les petits fours ne sont pas arrivés.
Bloqué sur la route, ce qui ne facilite pas l'arrangement de toutes ces petites histoires qu'on a suivies.
Et après aussi, le fait qu'ils soient tous réunis, tous ces gens-là, il y a aussi... Outre les intrigues qui vont certaines se connecter, il y a aussi toutes les grands cœurs entre certains personnages qui vont exploser, notamment entre Madeline et son ex-mari, Nathan. On sent toute la rancœur et Madeline, elle va mettre du temps aussi à accepter en fait ce qui s'est passé parce qu'on voit qu'elle s'est pas du tout remise de ce qui s'est passé avec son mari, le fait qu'il l'ait quittée alors qu'elle avait une fille en bas âge. Et du coup, Ed, le nouveau mari aussi de Madeline, il a aussi une dent contre Nathan, l'ancien mari, donc il y a tous ces gens-là qui finalement ne s'aiment pas forcément beaucoup, qui vont se retrouver au même endroit. Et du coup, voilà, c'est bien fait parce que toutes les intrigues au départ, elles ont vraiment l'air un peu insignifiantes. Enfin, pas le fait qu'il y ait une petite fille à l'école qui se soit fait étrangler par un de ses camarades ou des trucs comme ça, mais toutes ces intrigues qui ressemblent à des intrigues juste de, entre guillemets, d'une bourgade normale.
Oui, ça a l'air assez banal, entre guillemets. Enfin, c'est des petites histoires voilà, à l'école, de divorce, des choses presque communes, on a envie de dire.
Ouais, et pourtant la pression
va monter. On se demande en quoi ça arrive à un meurtre, c'est ça.
Meurtre, on ne sait pas.
Hein. Bah, une enquête.
Ouais. Mort.
Plutôt une mort qu'un meurtre, ouais. Voilà. Du coup, ouais, ce livre est pas mal dans ce sens-là, dans le sens gratter un petit peu l'envers du décor et aussi le message fort autour des violences conjugales à travers le couple de Céleste et Perry. Parce que, mine de rien, même si il y a le côté Céleste qui dit qu'elle prend part à ce jeu violent, je trouve qu'au fur et à mesure, notamment à travers ses entretiens avec la thérapeute, enfin la psy lui montre que ce n'est pas de sa faute et que c'est pas parce qu'elle rétorque qu'elle est responsable. Et du coup, il y a quand même un message fort autour de ça, parce que dans les violences conjugales, on a tendance à dire « Ouais, quand la femme répond, elle est tout aussi violente, etc. » Mais il ne faut pas oublier de qui ça commence, en fait. Enfin, qui a commencé ça et c'est Perry, c'est son mari qui a commencé. Donc finalement, elle ne fait que répondre à la violence qu'elle subit. Et je trouve que le livre, il prend quand même vachement un parti fort.
Oui.
Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, comme tu dis, c'est que... C'est pas juste un homme qui bat sa femme, puisqu'en effet, donc elle répond au coup, même si après coup, elle décrit son sentiment de dégoût envers elle-même, de dégoût envers son couple, de faire
ça.
Et elle
se définit même pas comme une femme battue.
Oui, non.
Elle n'accepte pas ce terme.
Il me semble pas, ouais. Et en plus, elle explique même que les séances de coups sont souvent suivies de rapports sexuels, etc. Ouais. Donc c'est vraiment une relation qui est assez spéciale, qui est malsaine, et elle en est consciente, mais au début, en tout cas du bouquin, elle concède qu'elle a sa part d'ombre et qu'elle est tombée dans une sorte de facilité parce que la première fois qu'il l'a touchée, Perry, l'un de leurs enfants était malade, donc du coup, il fallait aller à l'hôpital, elle pouvait pas le quitter, etc. Et donc du coup, elle s'est installée dans une routine et finalement, c'est la part d'ombre de son mari qui lui a été un peu transmise et elle pense que ça fait partie d'elle, mais au fur et à mesure, quand elle va voir cette fameuse thérapeute, avec qui d'ailleurs au début elle veut se construire encore une fois une image de perfection de sa vie, elle se rend compte que non, en fait, elle est pas comme ça, c'est juste qu'elle est devenue comme ça. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça va au-delà
de la construction de cette relation.
Et de la blessure autour de ça.
Et surtout qu'elle a arrêté de travailler à cause de lui. Enfin, je veux dire, c'est lui qui lui a dit arrête de travailler, consacre-toi à nos enfants, à notre famille, etc. Après qu'il la bat, il lui offre des bijoux hors de prix. Donc ouais, il y a vraiment une ambiance très malsaine autour de leur couple.
Puis d'autant plus qu'il lui a demandé de rester pour s'occuper de leurs enfants, parce qu'ils ont deux jumeaux, deux petits garçons. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle, elle a enchaîné, je crois, ses quatre fausses couches. Mmh. Et ils ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Donc du coup, il y a aussi derrière ce désir un peu protecteur de la part de Perry. D'ailleurs, il est présenté par elle dans le livre comme un père absolument parfait, qui n'a jamais touché ses enfants.
Qui les adore.
Qui d'ailleurs, quand ils se battent avec sa femme, c'est toujours en dehors du regard des autres, mais aussi des enfants.
Ouais, ils font en sorte que...
Enfin, c'est ce qu'on croit.
Oui, merci Pascal. Spoiler. Oui, mais après, ça aussi, c'est un message super fort, parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de couples dans ces cas-là qui pensent que, du coup, ils mettent leurs enfants à l'abri, que ça ne touche pas leurs enfants, qu'ils ne le voient pas. Mm. Mais en fait, ça aussi, c'est un message fort de l'autrice, je pense, c'est que les enfants captent tout.
Oui, c'est même s'ils voient pas la scène,
voilà,
ils ressentent
ces choses-là.
C'est ça.
Et d'ailleurs, je vais pas dire qui, mais il y a un autre personnage qui a été concerné par cette histoire-là et qui a gardé des séquelles très importantes d'avoir vécu en tant qu'enfant de parents battus.
Ouais, PTSD, on peut dire.
Ouais, c'est ça. C'est...
Stress post-traumatique.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc, ça aussi, c'est un...
Oui, c'est un message assez fort qui est véhiculé dans ce livre.
Tout à fait.
Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est quand même un roman assez féministe avec des personnages de femmes forts qui finalement à la fin s'unissent aussi.
Ouais. Mmh.
Même malgré leurs différences, on voit une vraie cohésion entre elles.
Ouais, y a
je trouvais que c'était intéressant.
Il y a une vraie idée de sororité, et d'ailleurs même plusieurs fois, il y a leurs maris qui ne comprennent pas leur entraide.
Totalement largués les mecs.
Ouais, un petit peu.
Et
ouais.
Puis ils sont clairement relégués au second plan hein, dans le roman.
Bah à part Perry qui est forcément présent, et encore. C'est quand même un mari qui est beaucoup absent parce qu'il voyage beaucoup à l'étranger dans le cadre de son boulot, et elle dit souvent qu'il n'est pas là deux semaines par-ci, trois semaines par-là, donc elle est quand même très, très seule, Céleste.
Même au niveau de la construction du récit, la syntaxe, etc., au niveau des dialogues et des descriptions, finalement, les hommes sont moins décrits, sont moins présents dans le roman, juste au niveau de la proportion...
Ouais, bah d'ailleurs, chaque chapitre, je crois qu'il commence par un nom d'un des personnages principaux, mais des trois femmes. Donc, chaque chapitre est soit du point de vue de Céleste, de Madeline ou de Jane.
C'est ça, ouais, les perspectives sont uniquement féminines.
Voilà, donc on peut dire que c'est un livre féministe. Et d'ailleurs, moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, je vais pas trop en dire pour pas spoiler. Mais pour finir sur les violences conjugales, il y a un message fort aussi où il y a un des personnages qui dit... Ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, c'est important parce qu'on pense toujours que dans les milieux un peu privilégiés, un peu riches, etc., ça n'arrive pas dans ces milieux-là. Ce sont des gens.
Oui, ou alors il y a de l'argent pour faire des thérapies et résoudre le problème en un clin d'œil.
C'est ça, ou ce sont des gens trop civilisés, trop bien, entre guillemets. Il y a encore cette histoire un peu. Il y a vachement aussi un message social dans le livre, et que ouais, ça peut arriver à n'importe qui, et que ce n'est pas la faute de la femme, en fait. Enfin, de la femme battue, c'est pas sa faute à elle. Donc voilà, c'est un roman qui se lit bien aussi. C'est parce que là on parle vraiment de sujets un peu lourds. On a parlé de violence conjugale, d'enfants maltraités à l'école, etc., mais c'est pas du tout un livre,
c'est pas pesant. Ça se lit vraiment comme un thriller, on est pris dans l'histoire, on a envie de connaître la fin. Bon, après, si on a d'abord vu la série, on connaît déjà la fin.
Ouais,
c'est
après la fin
un
du
peu
livre
particulier, mais...
la fin du livre, elle est un peu différente,
légèrement
de la
différente
série.
Mais
voilà, elle est, disons que la fin de la série est plus ouverte que le livre, mais sinon, voilà. Mais non, c'est pas du tout un livre, par contre, qui est pesant, parce qu'il y avait des vrais moments aussi de comédie entre les chapitres très graves, en fait. Je veux dire, les scènes avec Madeline qui pète des câbles. Enfin, il y a vraiment des scènes comiques. À un moment aussi, il y a Renata, du coup, qui organise l'anniversaire de sa petite fille, Amabella. Et du coup, elle invite pas Ziggy et Jane, parce qu'elle croit que Ziggy a étranglé sa fille. Donc du coup, Madeline, elle dit « Ah bah c'est comme ça. »
Contre-soirée.
Contre-soirée, on va tous voir Disney sur glace.
Disney on ice.
Et du coup, elle fait une
expulsion. La petite guéguerre des mères de famille.
Complètement. Et du coup, il n'y a personne qui va à l'anniversaire d'Amabella.
Aussi sur le prénom Amabella et pas Annabella. C'est français. Alors déjà ça, d'où
pas
en fait.
Pas du tout.
C'est pas du tout.
Ça me fait délirer. Je me dis « Mais non, mais
si vous
que
connaissez les Amabella, faites-nous signe. »
Voilà. chère Amabella, si vous existez, manifestez-vous.
L'anecdote, oui, avec la Juliette, leur French nanny. Bon, personnage quand même un peu cliché. Hein.
Ouais,
parce qu'on revient là-dessus, qui se tape deux pères de famille.
Même trois, je crois.
Enfin, voilà.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs.
French loveuse.
Complètement, c'est grave ça. Sinon, quel est votre personnage préféré dans ce livre?
Moi, j'aime bien. j'aime bien Madeleine, je pense, parce que j'aime bien son caractère un peu exubérant, justement, qui apporte cette touche d'humour et qui est quand même un personnage assez profond, qui a vécu des choses, comme ouais. on l'a dit, qui a eu une fille très tôt, qui a été abandonnée par son mari, qui a un autre garçon, un petit garçon après. Enfin, moi, je trouve que c'est un personnage intéressant. Et j'aime. On y reviendra, mais je l'aime bien aussi dans la série incarnée par Reese Witherspoon, donc voilà.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Pascal. Je trouve que le personnage de Madeleine est très attachant parce que elle a cette image un peu de femme, voilà, super exubérante, qui a quand même certains moyens, mais qui a vécu des choses vachement dures. Et le fait d'avoir vu la série d'abord, j'ai forcément l'image de Reese Witherspoon dans la tête. Donc c'est vrai, je l'aime beaucoup. Après, je trouve le personnage de Céleste vachement intéressant, qui est très creusé psychologiquement, et je pense aussi le fait qu'il soit interprété par Nicole Kidman. Quand je lisais le livre, en fait, j'avais vraiment sa tête, ses mimiques, son attitude en tête, donc ça m'a beaucoup influencée.
Ouais.
Et toi, Victor?
Bah, en fait, comme vous, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Madeleine, parce que justement, en début, elle fait vraiment très superficielle, elle commence tout de suite.
Elle fait un peu,
et elle en joue, je trouve, aussi de ce côté un peu complètement déconnectée du monde. Elle commence le livre et tout de suite en mode « je viens d'avoir 40 ans, est-ce qu'il va y avoir un gros changement dans ma vie ?»
Et quand elle se tord la cheville et qu'elle dit « ah non, je pourrais plus mettre mes talons ».
Ouais, elle fait vraiment super cliché. On se dit « ouais, c'est un peu la peste de service ». Et en fait, ouais, on se rend compte qu'elle a vécu quand même des choses pas faciles, qu'elle a dû élever sa fille seule et qu'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a pas peur de s'affirmer, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, même si elle n'a pas fait de grande carrière, mais finalement aussi c'est parce qu'elle a élevé sa fille, donc elle n'avait pas le temps non plus de travailler. Enfin voilà, donc c'est un personnage beaucoup plus touchant qu'on peut ne le croire. Je remarque quand même qu'aucune d'entre nous n'a dit Jane, en mode aucune de nous n'a eu pitié de la petite Jane, quoi.
Non. Moi, j'avouerais que j'ai trouvé le personnage un peu lente et un peu c'est pas ennuyeux comme personnage, mais voilà, elle est quand même très discrète.
Est-ce qu'on devrait la prendre en pitié? Est-ce que moi elle m'a un peu saoulée, enfin, en fait.
Ah, elle aussi, elle a vécu des choses difficiles, elle aussi, elle est en PTSD quand même.
Oui, clairement, mais du coup elle s'est focalisée là-dessus et
il n'y a pas grand chose d'autre autour du personnage.
Non. Et elle met du temps avant un petit peu de sortir de sa chrysalide, quoi.
C'est ça, elle est vraiment très renfermée, elle est très, très en retrait, bon.
Ouais.
Voilà. Bon,
c'était notre avis sur ce livre. Du coup, à sa sortie, Big Little Lies a été classé numéro 1 des best-sellers par le New York Times, direct. Et tout de suite, il y a Reese Witherspoon et Nicole Kidman qui se sont précipités pour acquérir les droits. Et à la base, elles voulaient faire un long métrage, donc un film. Et finalement, elles se sont ravisées et elles ont décidé d'en faire une série. Il y a HBO et Netflix qui se sont battus pour les droits d'adaptation. C'est HBO qui finalement a réussi à l'avoir. C'est comme ça ensuite que la série est arrivée sur HBO en 2017 et nous vous passons la bande-annonce tout de suite.
Are you new to Monterey?
Yeah, we just moved here a few weeks ago.
You're gonna love it.
You're so nice. This is Monterey. We pound people with knives to death.
Everybody wants to prove who's the richest.
We're talking about viciously competitive people.
I thought it was nice for the nannies to get to know each other.
Jane is not a nanny. She's a mom, just young. Like you used to be?
Like we used to be?
Bitch.
Did you ever want it?
All marriages are complicated. Did you want we fight, and then we make up. And we have this dirty secret.
Donc Big Little Lies, une série sortie sur HBO en 2017. La saison 1 fait 7 épisodes d'environ 50 minutes chacun. À la base, c'était une mini-série, donc c'est-à-dire que ça devait être juste un one-shot de cet épisode. Toute la saison 1 a été réalisée par Jean-Marc Vallée, donc un réalisateur qui a fait notamment Wild avec Reese Witherspoon. D'ailleurs, c'est grâce à ce projet que Reese Witherspoon a pensé à lui pour la réalisation de, Big Little Lies. Une des premières différences entre le livre et la série, c'est, comme tu disais Manon, l'endroit où se passe la série. Ça se passe à Monterey, en Californie.
Oui.
Une ville que tu connais bien.
Oui, parce que j'y ai vécu peu de temps, en fait, après le tournage de la série. Mais c'est faute à pas de chance, la série a commencé à être diffusée en février 2017. Et c'est ça, hein, février 2017. Et j'étais déjà revenue en France. Donc, j'ai pas pu faire le Monterey Tour de Big Little Lies. Mais
ça t'a rappelé des souvenirs,
quand
même.
Ça m'a rappelé des souvenirs. Et du coup, j'ai quand même reconnu certains endroits et un peu l'ambiance. Enfin, il y a une ambiance assez particulière qui est très bien rendue et les quartiers un peu huppés, riches, notamment autour de la ville, vers Carmel, by the sea, etc. Donc, beau petit clin d'œil.
Bah ouais, en plus, c'est super mignon parce que le café dont il parle dans le livre, qui est tenu par un barista Tom, il existe vraiment en fait à Monterey. On peut encore le voir aujourd'hui, c'est trop mignon. Ils ont mis une petite
la
plaque
petite affiche.
Et tout. J'adore, c'est génial. C'est vrai que ça donne vraiment envie d'y aller. Du coup, le tournage, la production a duré environ 5 mois et ils ont tourné dans un périmètre qui comprenait du coup Monterey, Pacific Grove, Pebble Beach et Carmel Islands. Ils n'ont pas une ville côtière près de Sydney.
Et c'est vrai que du coup, la différence aussi avec Australie et États-Unis, au niveau des saisons, c'est pas du tout la même chose. Moi, je me souviens qu'en lisant le livre, j'étais un peu perdue parce que l'année scolaire commence... En fait, pas en septembre.
Ah ouais, ça commence pas en janvier,
en
après Noël.
Voilà, ça commence en janvier. Il y a la pré-rentrée avant Noël. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais pas du tout compris au début que c'était... Pour moi, c'était vraiment à Monterey. Donc, j'étais pas en Australie dans ma tête.
Ah oui.
Et
ah
en
oui,
plus, comme les saisons sont inversées, c'est l'été à Noël. Enfin, voilà. Il y avait une différence aussi à ce niveau-là. Donc,
Mais moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. J'ai tellement commencé le livre en ayant... très très bien la série en tête que j'ai lu et puis je voyais Pierre et oui je sais plus trop quoi et j'étais là genre oui puis après je me suis dit mais en fait c'est pas du tout à Monterey mais pourquoi ils arrêtent pas de parler de l'Australie. C'est genre au bout genre plusieurs dizaines de pages que je m'en suis rendu compte.
Voilà. Bah ouais, et du coup l'Europe ça leur paraît vraiment hyper exotique quand il y a Perry qui part en Suisse etc, c'est genre incroyable.
Ouais.
et d'ailleurs à un moment à Noël dans le livre il disait que ils partaient en vacances Perry et Céleste et les enfants à la neige. Et justement, oui. Du coup, à Noël, à la neige, alors que bah, pour eux, c'est normalement l'été. Donc, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte tout de suite compte. Mais l'ambiance en Californie, c'est sympa aussi. C'est différent, mais c'est très sympa. En ce qui concerne le casting, forcément, Nicole Kidman et Reese Witherspoon ont acheté les droits. Elles étaient productrices de la série. Du coup, Nicole Kidman, en fait, elle s'est très rapidement imaginée dans le rôle de Céleste.
Elle est très bien dans ce rôle.
Ouais.
Elle est parfaite. Enfin, elle est vraiment...
grande, belle, un peu diaphane.
Mystérieuse.
Ça
fait un peu penser à son rôle dans Eyes Wide Shut, où elle est femme de famille qui se passe des trucs dans son couple.
Il se passe pas trop la même chose dans Eyes Wide
Shut. Non, mais le caractère, je trouve, du personnage m'a fait penser à ça.
Ouais, et puis elle joue bien, en fait, le côté « je m'enveloppe dans mes châles d'un air mystérieux ».
Exactement.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis elle est vraiment extrêmement belle, Nicole Kidman, malgré les années, elle est toujours très 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 belle.
Bon, un peu refaite, hein, faut quand même le dire.
Oui, dommage. Bien sûr. Et là ça va parce que comme elle est dans la série, elle a un peu une frange et les cheveux un peu toujours détachés, ça se voit pas
ça
trop.
Ça passe mieux.
Ça cache. Il y a Reese Witherspoon aussi qui joue le rôle de Madeline. Et il faut savoir que Reese Witherspoon, à la base, elle n'avait pas arrêté son idée sur un personnage de la série. Et c'est le scénariste, en fait, David A. Kelly, qui lui a suggéré d'incarner Madeline. Et il dit, quand j'ai lu le bouquin, je me suis tout de suite imaginé que ce serait elle. Mais quand nous sommes rencontrés et que je lui ai dit, elle m'a regardé avec l'air de dire première nouvelle.
Au début, elle n'était pas du tout convaincue. Elle est parfaite dans ce rôle.
Elle est parfaite dans ce rôle.
J'imagine personne d'autre. Mais et ce qui est intéressant, c'est que justement, peut-être qu'elle ne s'imaginait pas dans ce rôle. Parce que moi, j'ai lu qu'elle trouvait que le personnage était trop parfait. Que du coup, elle n'avait rien à se mettre sous la dent en jouant ce personnage. Et c'est pour ça qu'elle a rajouté une intrigue dans la série.
Ah oui, c'est vrai.
Qui n'existe pas dans le livre. Où elle, en fait, elle a une liaison avec le directeur du théâtre. Voilà, ça met un peu de piment dans sa vie. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre.
Ouais,
donc, voilà, elle a voulu rajouter quand même quelque chose d'un peu plus funky, je pense.
Ouais, voilà, parce que dans le livre, ils disent que voilà, c'est pas toujours parfait avec son mari Ed, qui s'aime vraiment très tendrement, mais que c'est pas toujours forcément la folle passion. Mais ils ont pas la passion.
La passion.
Voilà, la passion. Mais là, dans la série, il y a la passion avec. Comment il s'appelle dans la. Alex, je crois, non ? Dans la série, le mec avec qui elle a une liaison, je crois qu'il s'appelle Alex. Et il est joué, ce mec-là, par Santiago Carrera, qui jouait Aramis dans la série The Musketeers. Vous avez pas regardé cette série ?
Non. Pas les mêmes références.
C'est pas forcément une série très bien, mais il jouait Aramis et il est quand même vachement beau gosse, ce mec-là. Donc voilà. Et ouais, Reese Witherspoon est complètement incroyable. Mais vraiment, ce côté un peu pixie.
Ça lui colle à la peau.
Ça lui colle à la peau, ouais.
Le rôle.
Et quand elle pète des câbles, elle le fait vraiment bien, quoi. Ses problèmes avec son ex-mari, ses mimiques avec Renata.
Avec ses enfants.
Avec ses enfants.
C'est génial. Et d'ailleurs, elle a... Ses enfants sont différents dans le livre et dans la série. Puisque dans le livre, elle a un garçon.
Ouais, elle a pas de garçon, là, dans la série.
Bah, elle a une fille.
Elle a une fille Chloé.
Dans la série, elle a une fille, une ado.
Ouais.
Et elle a un petit garçon, je crois.
Non,
elle a une petite fille.
Ah oui, c'est une petite fille.
Et d'ailleurs, Chloé...
Alors qu'elle a en plus un petit garçon dans le livre.
Bon, en même temps, le petit garçon, il sert pas à grand-chose dans le livre.
Je pense que c'était plus une question de logistique... Sur le tournage, ça aurait été peut-être compliqué d'avoir trop de petits.
Et d'ailleurs, je crois que les enfants, ils sont aussi un peu plus âgés, parce que dans le livre, ils ont 5 ans. Mais dans la série, je crois qu'ils en ont un peu plus, 7-8. Enfin, la gamine, elle parle quand même vachement bien, elle n'a pas 5 ans. Chloé, la petite de...
Bah, je pense que si, parce qu'il me semble qu'elle va en classe avec Ziggy, parce qu'ils jouent ensemble.
Peut-être qu'elle entre au CP.
Peut-être qu'elle est juste au-dessus. Ouais. En tout cas, je sais qu'ils sont amis avec Ziggy, donc elle n'a pas beaucoup plus âgée.
Ils sont encore maternelle, hein, je crois.
Tu crois ? Ouais, je sais pas, il me paraît que c'est un peu plus grand dans la série que... Parce que quand même, elle écoute, elle a un MP3 et tout, elle a des goûts musicaux dans la série, bon, peu importe. Dans le rôle de Jane, nous avons Shailene Woodley. Du coup, c'est marrant parce que...
On
aussi...
sent super emballée, c'est génial.
Non, franchement, elle est pas mal. Non, mais c'est marrant aussi parce que elle colle pas forcément, que ce soit Madeline d'ailleurs ou Jane, elle colle pas forcément la description physique de leur personnage dans le livre. Genre Madeline, dans le livre, elle est brune, Reese Witherspoon est blonde. Et dans le livre, Jane est censée être un peu châtain clair, machin, et là, elle est clairement brune.
Et surtout,
brune.
Elle est censée être très, 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 très mince. Hein.
Ouais, toute petite, toute menue.
Bon, ça va, hein, je trouve.
Ouais, non, mais oui, Shailene Woodley, c'est normal, quoi. Mais après, elle le fait bien aussi dans sa façon de se tenir, etc. Shailene Woodley, le côté un petit peu mal dans sa peau.
Oui, ouais, moi, je trouve totalement. Qu'elle est bien dans le rôle.
Non, elle le joue très bien. Elle le joue très bien. C'est juste le personnage qui nous a pas conquise, mais elle joue très bien.
Oui.
Après, elle est... plutôt émouvante, j'ai trouvé dans la série. Il y a quand même des passages où elle fait un peu plus dégourdie, disons, que dans le livre aussi.
Mais c'est surtout dans la série, je trouve qu'on ressent pas du tout, enfin, en tout cas moins, le décalage d'âge entre le personnage de Jane et Céleste et Madeline. Parce que c'est vrai que dans le livre, bon, bah, comme tu me dis, Madeline vient d'avoir 40 ans, bon, elle est coquette, etc. Et elle prend Jane sous son aile parce que c'est la jeune maman et qu'elle fait un peu une sorte de transfert par rapport à elle aussi. Et je trouve que dans la série, bon, c'est la magie du maquillage et aussi les choix éditoriaux à chaque fois, mais on ressent moins ce décalage d'âge parce qu'il y a quand même plus de 15 ans, en fait. Normalement.
Ouais. Après, elles ont aussi 15 ans de différence dans la vraie vie.
Elles ont 15 ans de différence. Je sais pas, je trouve qu'elle fait. Enfin, c'est peut-être le maquillage, mais.
Ouais, c'est peut-être ça aussi.
Parce que je trouve Céleste, donc Nicole Kidman, bon, elle fait son certain âge, mais après, Reese Witherspoon, j'ai un peu du mal à lui donner un âge et je trouve que Shailene Woodley, elle fait quand même plus âgée.
Parce qu'elle est quand même très maquillée dans la série. Enfin, pas très maquillée, elle a du crayon noir et tout, alors que dans le livre, elle est vraiment décrite comme. Un peu une petite souris en mode toute blanche, sans maquillage, les cheveux en arrière. Là, elle est un tout petit peu plus en mise en valeur. C'est peut-être ça aussi qui l'a vieillie un peu. Mais du coup, ils lui ont mis des chemises à carreaux pour faire quand même le décalage social et d'âge. C'est vrai qu'elle n'est pas habillée pareil que Céleste et Madeline. D'ailleurs, là, les costumes, ils sont plutôt beaux. Enfin, là, les décors, genre la maison de Céleste ou même Madeline, qui se considère entre guillemets comme une pas très riche, elles ont des maisons incroyables.
Oui, c'est sûr.
Ça fait rêver. Enfin, franchement, tu vois la maison de Madeline, c'est genre, elle marche quelques mètres, elle est sur la plage.
Oui, ça fait rêver.
Ça fait rêver.
C'est vrai que de manière générale, la photographie de la série est très belle. Enfin, c'est très léché comme image.
Ouais.
Je pense que ça montre vraiment l'apparence des choses. Tout est beau en surface. Effectivement, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est faux. Ouais. Mais ça joue aussi de ça, je pense. La photographie avec, voilà, la musique, les belles images sur la mer, sur la côte.
Puis ils ont vachement joué sur les effets, les jeux de lumière déjà, parce que c'est à Monterey, c'est en Californie, donc il y a la fameuse Golden Hour, mais il y a aussi le côté, c'est sur la plage, et ils ont utilisé des filtres, notamment, c'est pas vraiment des flashbacks, mais des moments où on voit Jane courir, on voit que ses pieds courir sur la plage, on sent que voilà, elle est en train de revivre ce qui s'est passé avant et qu'on ne sait pas.
On voit au fur et à mesure dans la série.
Ouais, ça se dévoile.
Les flashbacks se dévoilent petit à petit. Mmh. Et on comprend plus vite que dans le livre, en fait. J'ai l'impression.
Ouais, bah, je crois que dans la série, c'est dès l'épisode 3 qu'on comprend un petit peu ce qui est arrivé à Jane sur 7. Voilà. Mmh. Ouais, ça arrive assez rapidement.
J'ai l'impression, en fait. Enfin, c'était assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils veulent garder le secret, ou qu'ils auraient pu le garder plus longtemps quand même, mais que ça se devine vite, et ça se devine pour moi un peu trop vite. Enfin...
Après, dans le livre, il y a l'identification du coup du père.
Ouais.
On connaît le nom qu'il a pris. Et il y a tout un jeu là-dessus aussi, qui n'est pas du tout présent dans la série. Puisqu'il dit s'appeler Saxon Banks, et voilà.
Et du coup, il y a des recherches.
De avec un autre personnage, etc. Et on fait beaucoup plus vite le rapprochement. Enfin, moi, j'ai trouvé que même si je connaissais l'issue, dans le livre, on fait plus vite le rapprochement avec le vrai personnage.
Alors, je suis pas tellement d'accord, parce que moi, dans la série, dès l'épisode 3, justement, du coup, j'avais deviné qui était...
Moi, dans la série, j'avais pas du tout deviné.
C'est vrai.
Moi, j'avoue que j'étais pas...
Tu t'es laissé porter.
Je me suis laissé porter, clairement, et j'étais assez surprise.
Ouais, non, mais...
Je trouve que c'est plus flagrant dans le livre. D'où avec l'identification du personnage.
Je comprends ce que tu veux dire, mais
il laisse planer plus de doutes quand même dans la série. C'est plus subtil, en fait, je trouve.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est plus subtil. Et c'est vrai que les images, on laisse complètement porter et cherchent un peu presque à nous endormir, en fait, par rapport à ce qui se passe vraiment. Et d'ailleurs aussi, dès l'épisode 2, on voit la première scène de violence conjugale entre Perry et Céleste, et qui nous tire un petit peu de la torpeur. L'épisode 1 installe un petit peu l'ambiance, etc. Bon, il y a la scène à l'école où il y a Ziki qui se fait accuser, etc. dès l'épisode 1, mais c'est dès l'épisode 2, en fait, que d'un coup, on nous casse un petit peu d'un coup le rêve de l'énorme maison vue sur la mer, machin, la vie parfaite qui vole en éclats. Et les scènes de violence conjugale, justement, entre Perry et Céleste sont super bien jouées. C'est Perry qui est interprété par Alexander Skarsgård.
Oui.
On a une très grande fan. Voilà, tout à fait.
Pour ceux qui ont suivi True Blood, voilà.
Mais oui, il faisait Bill.
Eric. Non, ah. Eric, pas Bill. Bill est nul. Eric.
Et pour cette anecdote aussi sur ce personnage, dans le livre, il est quand même décrit comme ressemblant à Tom Cruise, genre littéralement.
Ah,
elle écrit
ça.
Et sachant que Tom Cruise est quand même l'ex-mari de Nicole Kidman.
Ah, trop marrant.
Donc c'est assez drôle ce petit rapprochement.
Ça, c'est drôle, ouais. Mm. Mais ouais, Alexander Skarsgård, il joue super bien parce qu'il est... c'est vraiment l'armoire à glace, le grand blond baraque.
Oui.
Qui est tout le temps en costume trois pièces et tout, qui fait vachement propre sur lui, vachement distingué.
Puis il a ce côté très mystérieux et un peu austère, mais en même temps, enfin...
Mais les... Ouais, je trouve qu'il casse un peu le rêve quand il y a les scènes où il bat Nicole Kidman, quoi.
Ouais, oui, non, bien
forte,
sûr.
Ces scènes. Moi, j'étais vraiment... J'étais mortifiée sur moi-même, quoi. C'était horrible. C'est vachement bien fait, les regards.
Ouais, c'est surtout que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Comme tu le disais, épisode 2, boum, quoi. Ça arrive.
Ouais, et c'est super surprenant. Et justement, après, ils enchaînent du coup sur une scène de sexe. Et ça met trop le malaise. Moi, j'étais vraiment trop mal. C'est horrible. Tu sens qu'ils jouent super bien tous les deux et qu'ils te mettent vraiment une impression d'authenticité qui est très forte.
C'est vrai.
Ensuite, dans les personnages secondaires, du coup, on a le mari de Madeline, donc Ed, qui est joué par Adam Scott, qui fait un peu le rôle
du Benet.
Ouais, du Benet, c'est vrai. Mm. Je cherchais un mot.
Moi,
je
l'aime bien. Mais... je trouve que c'est le seul qui est un peu tranquille dans sa vie, les pieds sur terre.
Ouais, c'est pas d'ailleurs.
Il est sympa, il prend pas la tête comme tous les autres.
En fait, c'est un peu genre le mec normal, mais du coup, il détonne un peu. C'est un mec clairement qui peut exister dans nos vies à nous. Bon, après.
Exactement.
Du coup, ça détonne un peu, parce qu'en plus, il est pas riche, il est pas.
Il est informaticien, je crois.
Voilà, il bosse pas. Non, il est journaliste. Il bosse pour le journal local.
Autant pour moi.
Mais enfin, en tout cas, il fait un métier totalement. Normal, et il est pas habillé en Dolce Gabbana ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est marrant parce qu'il ressemble aussi à son personnage très simple et très bené qui joue dans Parks and Rec, pour ceux qui connaissent la série américaine. Voilà, c'est le mec cool, quoi.
Bah, et après, il est pas si bené que ça, hein, comme personnage.
Ouais.
Il est quand même là pour tenir Madeline, et ça, faut quand même du courage.
Ouais, parce que Reese Witherspoon, elle est sur les crocs, quoi. Des fois, elle
remet les pieds sur terre. En même temps, il la protège. Enfin... Même toutes ces histoires par rapport à son ex-mari, il est là, Moi, je trouve quand même pas si bené.
Bah, je trouve, maintenant que tu dis ça, je trouve qu'il est mieux dans la série que dans le livre. Dans le livre, je le trouve vraiment passif, notamment sur son investissement avec les enfants, aussi bien du coup l'enfant qu'il a eu avec Madeleine que la fille de Madeleine de son premier mariage.
Voilà,
il est un peu en mode cool, tu gères. Je le trouve vachement plus investi, en effet, dans la série.
Et de manière générale, je suis d'accord avec toi, je trouve que dans la série, les personnages sont plus approfondis que dans le livre.
Ouais.
Vraiment, j'ai remarqué pour chacun des personnages.
Ce qui est rare.
Ils ont beaucoup plus de profondeur. Enfin, ça, c'est vraiment un plus de la série.
Complètement.
Par exemple, le personnage aussi de Renata.
Ouais, qui est incarné par Laura Dern. Donc, voilà. Ceux qui nous ont écoutés dans l'épisode précédent sur Jurassic Park. La revoilà.
Et voilà, elle a beaucoup plus de profondeur dans la série quand même.
Ouais.
Dans le livre, elle passe juste pour
la mégère,
business
et qui est plus âgée aussi que les autres. Genre, je crois que dans le livre, elle a bien 50 ans alors que les autres en ont 40, quoi. Elle fait aussi la vieille mégère, quoi.
Oui, personnage un peu caricatural, alors que dans la série, voilà, il y a beaucoup plus de profondeur, sans doute apportée par l'actrice. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un vrai plus.
Je pense que ça a été creusé à la fois par les scénaristes et par l'équipe du film, peut-être de développer un peu plus, vu que quand même, en format 7 fois 50 minutes, c'est long. Donc, faut un peu enrichir aussi le récit.
Parce que le livre n'est pas si long, livre, il fait...
Et il se lit facilement.
Et puis, comment adapter en série un thriller qui a été un best-seller, donc tout le monde connaît la fin,
c'est ça, ouais.
Enfin, je veux dire, beaucoup des spectateurs ont dû d'abord lire le livre. C'est difficile, quand on connaît la fin, on ne s'attend plus à grand-chose, donc il fallait quand même apporter quelque chose d'autre.
Ouais.
Mais le cast, je pense que cast
c'est un énorme casting.
Travail de fou, quoi.
Bah oui, d'ailleurs,
c'est
aussi,
des acteurs,
outre Laura Dern, aussi dans les autres personnages secondaires qui sont beaucoup plus creusés dans la série que dans le livre, c'est Bonnie, donc la nouvelle femme de Nathan, l'ex de Madeleine, qui est incarnée par Zoé Kravitz. Donc là, elle n'est
pas du tout la grande suédoise, par contre.
Non, pas du tout la grande suédoise, mais... Elle joue super bien ce côté un peu aussi zen, baba cool.
Après, je trouve que on apprend plus sur son passé, par exemple, dans le livre.
Oui.
Dans la série, c'est pas du tout évoqué, ça.
Elle est plus mystérieuse dans la série,
donc,
ouais.
Je trouve que je mettrais un petit bémol sur son personnage, par contre.
Ouais,
par
mais je trouve que
livre.
Du coup, elle est moins monolithique, tu vois. Dans le livre, elle est vraiment genre, c'est la meuf trop gentille, quoi. Et là, tu sens qu'elle est gentille, mais... Elle est pas, c'est pas une, elle a quand même une profondeur, quoi. Elle
disons
est pas que ça.
Je pense c'est plus sur le jeu d'interprétation où il y a des regards, des moments d'attardement par la caméra où
mais
tu
le
sens
personnage
qu'il y a un
en soi, pas trop, je trouve.
Mais c'est ouais. Mais après c'est vrai que je trouve l'interaction avec le personnage de Madeleine, du coup ça rend ça super drôle parce que forcément Madeleine c'est la pile électrique qui est maquillée super coquette etc et il y a Bonnie qui arrive
prof
avec ses
yoga,
Samuel et sa petite tisane au gingembre donc ça c'est vrai
c'est
quand
même
super
drôle.
La
battle pour la garde de la fille de Madeleine et Nathan Abigail,
qui n'est pas une battle finalement
qui n'est pas une battle mais bon elle dit oui je vais aller habiter avec Bonnie on mange sans gluten on est vegan c'est trop bien.
Oui, et après, dans le livre, il y a même une scène où Abigail, donc l'adolescente de Madeleine, revient chez Madeleine de temps en temps quand même, parce que c'est sa mère, et qui prend un steak. Ouais. Madeleine qui lui dit « Bah alors, t'es pas végane ?» Ah bah non, ici, c'est trop dur.
Ouais, donc elle avait besoin quand même d'un break de la vie parfaite. Et il y a une scène aussi qui, je crois, n'est pas dans le livre. C'est une scène, un moment de repas entre Madeleine, Ed, Nathan et Bonnie, qui a lieu chez Nathan et Bonnie.
Ah oui, gros moment malaise.
Ouais, gros moment malaise où ils sont tous réunis. Et surtout aussi, ça montre que Ed, il n'est pas si béné quand même qu'il le montre, enfin qu'il en a l'air, parce qu'il est quand même vachement cool, quoi. Il va dîner chez l'ex-mari de sa femme.
Et c'est lui qui calme un peu les tensions.
Ouais,
il est complètement... Parce qu'il y a clairement des tensions, et lui, il est là pour un peu faire le...
Ouais, le médiateur. Et il est hyper serein, quoi. Il est pas du tout, enfin, il est pas trop non plus en mode jalousie et tout, quoi. C'est le plus mature limite de tout le monde.
Oui, totalement.
Donc derrière ses airs.
C'est vrai qu'on le voit dans un passage avec Abigail, là, quand elle fait quelque chose, je sais pas si on peut le dire.
Non, on va peut-être pas le dire, mais elle fait.
enfin voilà, elle fait quelque chose d'assez grave, un coup de folie, et puis là, grosse question parentale, que faire? Et puis on voit que Nathan et Bonnie savent pas trop. Madeleine, elle est très gênée, mais finalement, Ed, je trouve, c'est celui qui prend plus en charge la situation.
Ouais, il est vraiment les pieds sur terre. Enfin, pour finir aussi sur sur les personnages. Moi, il y a une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, du coup. Bon, ça se passe dans les derniers épisodes, on n'en dit pas plus, mais du coup, la soirée Audrey et Elvis, elle est géniale, cette scène. Quand on voit tout le monde qui est habillé en enfin, Audrey et Elvis, elle rend ça vraiment bien.
Et d'ailleurs, dans le livre, il me semble que Jen ne s'habille pas de la même manière que dans la série. Elle s'habille de la même façon que Céleste.
Ah oui.
Alors que dans la série, elles n'ont pas le même type de costume.
Non, elles sont toutes les deux en Oligo Lightly, non ? Le personnage dans Diamant sur canapé.
Ah, ou alors c'est dans le livre. Ah oui, non, c'est ça. Dans le livre, elle est habillée en Audrey Hepburn dans un autre personnage.
Ouais, ça c'est possible.
Oui, parce qu'elle est allée chez le coiffeur, elle s'est coupée les cheveux.
Hein. Ouais. Oui, et du coup, alors que j'ai l'impression que dans la série, du coup, ils ont voulu faire un peu comme un copycat plus pâle de Céleste.
Ouais, ils ont un peu joué là-dessus.
Et ils ont joué là-dessus, et avec la suite, on peut comprendre des choses, et je trouve que c'était assez intéressant de faire ça.
Et il y a aussi Madeleine qui n'est pas habillée pareil dans la série, parce que là, elle est dans la tenue de pyjama, toujours dans Diamant sur canapé, mais quand Audrey Hepburn, la célèbre tenue où elle ouvre à son voisin et elle est un peu en chemise de nuit avec un masque dans les cheveux.
Le masque, ouais.
Ouais, et donc... Et là, c'est pareil, ça va trop bien à Reese Witherspoon, ce côté « non, je ne suis pas comme les autres, je suis trop originale ».
Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, une soirée Audrey Hepburn, tout le monde se dit « ça sera en diamant sur canapé, oui. Le petit collier à perles, les gants blancs et la robe noire
d'ailleurs,
coupe
Nicole
Chanel ».
Elle est comme ça, ouais.
Tout à fait. Ça lui va d'ailleurs très bien.
Et justement, ouais, c'est marrant parce que du coup, Reese Witherspoon, elle se plaint parce qu'elle dit « ouais, pourquoi Audrey alors qu'Audrey est brune, alors qu'elle est une des seules blondes et tout, donc elle râle à cause de ça ». Donc ouais, c'est bien fait. Et la série aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est lente, enfin elle met bien l'ambiance, mais sans être ennuyeuse, parce que justement, elle alterne un petit peu avec des flashbacks parfois très rapides, où justement, par exemple, avec Jane, ses flashs, au début, c'est vraiment presque des instants, en fait, de scènes qu'on capte. C'est pas du tout lent. Et il y a aussi une autre scène, enfin, que j'ai beaucoup aimée, qui sont plus approfondies, je trouve, dans la série que dans le livre, c'est les séances conjugales de Céleste chez le psy. Au début, elle est vraiment avec son mari et après seulement, elle vient toute seule. Mais les premières séances, elle le fait vraiment avec son mari. Donc, on le voit, c'est pas un flashback. Alors que dans le livre, c'est un flashback, tu le vois pas très bien.
Oui, et dans le livre, elle explique qu'il y en a eu qu'une.
Ouais. Et la série, les scènes de Nicole Kidman qui raconte à la psy, c'est vraiment trop bien fait. Elle joue vraiment trop bien dans ces scènes-là. Bon, en fait, elle se dévoile, quoi. Et c'est vraiment bien joué.
C'est vrai que moi j'ai bien aimé le contraste et la tension entre le personnage de Nicole Kidman, donc Céleste, qui veut exprimer son malheur, qui veut sortir de cette situation, mais qui n'en parle pas à ses amis, mais qui accepte elle-même d'aller voir une psy, mais elle juge aussi la psy, enfin, en tout cas dans le livre, elle dit... Enfin, c'est qui cette femme qui est limite plus jeune que moi, ouais. Qui est habillée comme un sac, maquillée comme une ado et qui connaît rien à la vie. Donc du coup, elle se met cet esprit de compétition envers elle-même pour montrer qu'elle est supérieure. Mais petit à petit, en fait, le fait d'avoir cette personnalité si différente en face d'elle va briser la glace. Et finalement, en fait, ça l'aide à se lâcher. Parce qu'en plus, elle est voilà, dans un autre voisinage pour ne croiser personne qu'elle connaît. Mm. Toujours garder ce petit secret quand même.
Et dans la série, la psy, elle est pas forcément, elle fait pas forcément plouc comme elle est décrite dans le livre, mais elle fait très sèche, presque austère. Et au début, il y a genre Céleste qui fait, enfin Nicole Kidman qui fait vraiment des mimiques très offusquées, et elle le joue vraiment bien, ce côté, enfin qu'est-ce que vous me dites et tout, je suis pas une femme battue. Et au fur et à mesure, elle parle et on voit les expressions de son visage changer. Et c'est vraiment, voilà, c'est une série où globalement tout le monde joue vraiment très bien. Je trouve que tout le monde est dedans. Et il n'y a aucun moment, je trouve, où les scènes, elles font fausses ou superficielles. Tout est vraiment très juste, en fait. Quel que soit le niveau de l'intrigue, en fait. Que ce soit les petites intrigues un peu secondaires de rivalité entre parents ou quoi, que les grosses intrigues de violence conjugale, que tout ça...
Même
tout est bien dosé.
La scène finale, dont on ne dira rien, bien sûr. Pas de spoiler, Victoire. et je trouve est beaucoup plus subtile dans la série que dans le livre.
Oui.
Là, honnêtement, dans le livre, c'était un peu grossier. Enfin, ouais. Moi, j'ai trouvé...
C'était Hercule Poirot dans le livre.
Oui, voilà, c'était trop, trop de dialogue. Enfin, voilà, c'était pas... Alors que dans la série, c'est fait de manière très subtile et tout s'éclaire pour moi, tout s'est éclairé. Et je fais waouh, genre, c'était bien fait, quoi.
Bah, ouais. C'est surtout que dans la série, on reste, ça se passe et c'est la fin. Et je trouve que dans le livre, en effet, non seulement c'est pas super subtil, mais en plus, ça s'étale parce qu'il y a... il y a un après. Et en fait, du coup, ça, d'ailleurs, ça installe des bases sur ce qui pourrait se passer pour une suite de livres ou une suite de saison qui commence bientôt. Mais du coup, enfin, moi, j'ai trouvé ça assez inutile, en fait. J'aurais préféré que ça finisse comme la série.
Ouais, la série, elle
sans explication. Enfin,
assez ouverte.
Il y a des explications.
Et... mais... ouais, en fait, à la fin de la série, tu sais pas exactement ce qui va arriver au personnage.
Ouais.
Tandis que le livre, ouais, il
pose
prend...
totalement les bases.
Il prend du temps, le livre, ensuite, pour raconter ce qui s'est passé après cette fameuse soirée. Donc, je suis d'accord, moi aussi, j'ai préféré la fin de la série. Et d'ailleurs, à la base, cette série donc, devait être une série, il ne devait pas y avoir de suite. C'était la volonté donc, de Jean-Marc Vallée. Il a dit, je cite, « Il était prévu que ce soit un projet unique et la fin doit laisser les spectateurs s'imaginer ce qui peut se passer après. Si nous faisons une saison 2, nous casserons ce bel objet que nous avons créé et nous le gâcherons. » Donc,
oups.
Oups.
Ouais. Comme souvent pour les projets où c'est juste un film ou juste un truc unique et après on se dit ah tiens ça a tellement bien marché, on va se faire de la thune et on va faire une saison 2.
Bah en fait il faut dire que oui la saison 1 a vraiment énormément fonctionné de Big Little Lies, ils ont eu 9 Emmys en 2017 donc c'est énorme, ça a vraiment été une consécration. Donc
est-ce,
eu...
que, est-ce qu'ils surfent sur la vague du succès?
Oui bah oui.
Est-ce que la saison 2 va valoir le coup?
Ben moi, ce que j'ai peur, justement,
mystère.
C'est que...
réponse le 10 juin.
Ah, surtout que ouais. Ce ne sera pas basé sur un livre.
Bah oui, mais ça peut reprendre les bases de la fin du livre, justement.
Mais
et moi, c'est ça qui me fait
intrigue.
Peur.
Quelle intrigue ? Il n'y aura plus ce meurtre dont on ne sait rien, qui est le fil rouge.
Ouais. Bah, il y a Meryl Streep qui arrive.
Oui.
Oui.
Mais je trouve que peut-être que sans cette intrigue centrale, si c'est juste leur vie, ça sera peut-être
après,
un peu plan-plan.
Ils vont, ils vont peut-être mettre autre chose.
Ils vont mettre autre chose. Là, on attend de voir, mais...
Moi, j'ai vu très peu d'informations sur la saison 2, qui finalement, comme tu le dis, Victoire, commence le 10. Donc là, ça
ouais,
10
juin,
peu.
Ouais, ça...
Oui, de ce que j'ai lu, ce sera vraiment l'après. Et donc, du coup, voilà, les personnages,
mais après...
les questions de culpabilité...
Oui, mais ça me fait aussi penser, par exemple, à 13 Reasons Why, qui est basé sur un livre aussi, à l'origine. Ils ont fait une saison 2... qui n'a aucun sens.
Mais il va y avoir une saison 3
oui,
aussi.
Oui, enfin je veux dire, ils continuent et l'intrigue principale qui fait la base de la série étant terminée, ils font ce jeu de la culpabilité, du procès des personnages. On voit que ça donne quelque chose d'un peu surfait quand même. Donc, moi j'ai un peu peur que ça parte là-dedans. Bon, on verra, hein, on va pas non plus être pessimiste.
On verra ce que ça donne. Mais il y a aussi genre...
Moi je suis contente de retrouver les personnages et de voir ce qui va se passer, mais...
Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce risque-là qu'on soit déçu. Et en plus, donc Jean-Marc Vallée, dont tu parlais, Victoire, il reste dans l'équipe, il va être producteur exécutif, mais il sera plus du tout réalisateur. Donc il aura, je pense, encore un mot à dire, mais beaucoup moins sur tout ce qui est créatif, tout ce qui est scénario. Donc il passe le flambeau à Andrea Arnold, d'ailleurs. Mais du coup... Voilà, qu'est-ce que ça va donner
après,
quand
Reese
on
Witherspoon
parle de changement d'équipe, dernière saison de Game of Thrones, hein, voilà, on sait ce que ça donne. Des trucs de merde.
on verra ce que ça donne, mais en tout cas, il y a quand même Reese Witherspoon et Nicole Kidman qui restent productrices et exécutives, donc il faut quand même espérer que ce soit pas trop mal. Et bon, on a vu que quelques images, parce qu'il y a la bande-annonce de la saison 2 qui est sortie il y a peu de temps. Enfin, la photographie, elle m'a l'air assez similaire. Ils ont gardé l'espèce de filtre.
Mais après, il faut que ça reste cohérent, de toute façon.
Oui, mais la bande-annonce ne dit absolument rien non plus, à part l'arrivée, du coup,
de
Meryl Streep.
Mais bon, après, les acteurs sont quand même très bons. Je veux dire, il faut quand même savoir que parmi les 9 Emmys qu'ils ont gagnés, il y avait quand même, bon, outre meilleur costume, meilleur casting, meilleure supervision de la musique, qui, c'est un Emmy, il y a quand même 3 acteurs qui ont gagné des Emmys, donc Nicole Kidman, Laura Dern, et Alexander Skarsgård, ils ont tous les 3 gagné des Emmys pour
et
leur
pas
jeu.
Et Reese.
Ouais, enfin Laura.
Reese, elle
Dern,
est outrage. Bah en fait, Laura Dern a été nommée comme dans un second rôle, et en fait, Reese Witherspoon et Nicole Kidman étaient tous les deux nommés pour le premier rôle, enfin meilleure actrice dans un rôle principal. Donc forcément, il n'y avait qu'une sur les deux qui pouvait gagner. Alors forcément, ils ont fait gagner Nicole Kidman. Je veux dire les scènes.
Disons qu'il y a plus de travail pour l'actrice.
Ouais, même si je suis d'accord, hein, Reese Witherspoon joue vraiment très bien, elle n'aurait pas démérité. Donc voilà, donc finalement, 3 mois à peine après les Emmys de septembre 2017, le 8 décembre, la chaîne HBO a annoncé que la série est renouvelée. Donc voilà, c'est quand même le même scénariste, donc c'est quand même pas tout à fait comme Game of Thrones. Là, c'est quand même le même scénariste, c'est plus le même
J'attends
réalisateur.
J'attends quand même de voir.
Mais c'est toujours David
affaire
et Kelly.
Affaire à suivre.
Voilà, et ils ont dit que ce serait adapté d'une histoire inédite de Liane Moriarty, du coup l'autrice du roman. Donc elle va, apparemment, elle a écrit une histoire exprès pour cette saison 2, mais qu'elle va pas sortir en roman.
Bah, parce que j'ai aussi entendu qu'elle avait écrit là récemment un autre roman qui s'appelle The Hypnotic's Love Story, qui va aussi être adapté en série. Une autre série.
Ah, marrant. À voir. Mais bon, en tout cas, on peut espérer que ce soit bien. Enfin, en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, c'est sûr, je vais regarder la saison 2. Enfin,
ah oui, carrément.
J'ai très hâte quand même. Surtout quand j'ai toujours mon abonnement à OCS, donc autant qu'il me serve à quelque chose, n'est-ce pas? Je rigole, c'est les identifiants de ma mère.
Pareil. Merci, maman.
Merci, maman. Du coup, est-ce que vous avez préféré le livre ou la série?
Bah, moi, j'ai préféré la série, clairement. En tout cas, la saison 1. C'est assez rare. Hein, souvent, le livre est plus abouti, je trouve. Mais là, je trouvais que la série, comme on a parlé, apporte vraiment un plus. Mm. Notamment au niveau de la profondeur des personnages. Aussi dû aux acteurs, qui sont tous vraiment très bien. Et voilà, au niveau de l'intrigue, qui est un peu moins plan-plan. Enfin, parfois, dans le livre, je trouve qu'on était quand même à la limite du cliché. Vraiment, les petites guéguerres entre voisinage, à l'école, ça faisait un peu les petits cancans. Enfin, ça m'a un peu gênée dans le livre. Je trouve que le film est plus...
La série.
La série, pardon.
Puis la série, elle met aussi des passages de malaise où tu sais pas... Enfin, c'est presque borderline par moment, certaines scènes dans la série. Donc ouais, ça met une ambiance un peu différente. Et toi, Manon?
Pour moi, ce sera la série aussi. J'ai bien aimé le roman, mais comme Pascal, je l'ai trouvé peut-être un peu simple. Et même au niveau des mots utilisés, de la façon dont c'est écrit, j'ai trouvé ça trop simpliste parfois. Mmh. Et ce qui m'a vraiment conquise, au-delà du cast assez ouf de la série, c'est l'ambiance instaurée, la qualité sur l'image, la photographie. Il y a vraiment une atmosphère en fait qui est créée de dingue. Et quand j'ai lu le livre, j'avais vraiment tous ces éléments déjà en tête qui m'ont accompagnée pendant la lecture. Donc clairement, d'habitude, je peux faire un distinguo, je peux avoir des idées différentes, même en ayant vu l'adaptation sur écran avant. Là, c'était pas le cas. Donc voilà, je prends ça comme signe de réussite de la série. Ouais. Et toi, Victoire?
Je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que la série, c'est vraiment une incarnation du livre très réussie, très, très positive, qui apporte vraiment une autre dimension aux événements du livre qui parfois auraient peut-être pu être plus creusées. Et là, la série, je trouve qu'elle met vraiment une espèce de malaise ambiant où on sent que ça peut vite tourner, en fait, enfin, que c'est vraiment bien fait. Les acteurs, j'adore. Reese Witherspoon, je l'ai adoré dans cette série.
On a compris que c'était notre coup de cœur.
Mais Reese Witherspoon, mais quelle grande actrice, elle est formidable.
En plus, elle a un book club, hein, rappelons-le.
Oui, sur Instagram, voilà. Reese Witherspoon x Hello Sunshine. Bah, c'est elle lit beaucoup, elle a tout de suite acheté les droits du livre dès qu'elle l'a lu.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une grande prescriptrice aussi qui est beaucoup suivie du coup par les éditeurs parce que dès qu'elle conseille un livre, ça part direct dans le top des ventes. Enfin, elle est quand même très populaire aux États-Unis.
Bah d'ailleurs, pour info, là, elle vient de commencer le tournage d'une série adaptée d'un livre qui s'appelle La saison des feux de Céleste Ing. Et c'est une histoire, je ne l'ai pas encore lue, il est dans ma PAL. Ça se passe dans une banlieue tranquille, genre près de Cleveland ou un truc comme ça aux États-Unis. Et pareil, on va avoir des secrets de voisinage, etc., qui vont apparaître au grand jour. Et elle joue dans la série. Et voilà, le tournage vient de commencer. Donc pareil, c'est une série que je pense que j'aurais hâte de voir parce que je pense qu'elle a quand même un petit peu l'œil pour repérer ce genre de projet. Et comme tu dis, elle est une bonne prescriptrice de livres. Du coup, quelles sont vos recommandations ce mois-ci? Que ce soit des livres de Liane Moriarty, des séries HBO, des ambiances histoire de quartier.
Moi, je recommanderais dans un style totalement différent, mais on peut quand même faire un parallèle avec Desperate Housewives.
C'est vrai.
Qui est totalement. Une série qui date, en fait. Je ne sais pas quand elle est sortie.
Ah ouais, il y a un bail.
Je crois qu'on est vieille.
Voilà, il y a à peu près 15 ans, mais c'est une des premières séries que j'ai vraiment regardées avec mes parents quand j'étais plus jeune. Et voilà, ça retranscrit aussi cette ambiance de quartier, banlieue américaine, avec toutes les intrigues qu'il peut y avoir. Bon, il y a un ton beaucoup plus humoristique. Hein,
oui, non,
c'est pas ça. Du coup, je trouve que voilà, ça peut être aussi intéressant de faire contre-pied, côté un peu plus drôle.
D'ailleurs, je crois que dans les critiques de la série Big Little Lies, il y a une journaliste ou un journaliste, je ne sais plus, de West France, qui a justement comparé la série Big Little Lies à Desperate Housewives. Donc, il y a un parallèle.
C'est pas très étonnant. Ouais.
Et toi, Manon?
Moi, alors, j'hésitais. Mais Jean-Marc Vallée, bon, il a fait des films aussi et totalement différents. Mais il a fait Dallas Buyers Club. avec Matthew McConaughey, Jared Leto et Jennifer Garner. Et c'est un film incroyable. En une phrase, c'est à Dallas, un homme séropositif, Ron Woodruff, qui se lance dans la contrebande de médicaments alternatifs avec l'aide d'un autre séropositif qui s'appelle Ryan. C'est un film de dingue. C'est triste, émouvant, touchant, très bien joué. Donc, je recommande grandement ce film. Voilà. Et également, peut-être la série Sharp Object, dont Jean-Marc Vallée est producteur. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des super bons échos.
Ah, j'ai adoré.
Et ça a l'air d'être plus un peu dans l'ambiance, voilà, thriller. C'est Camille Pricker qui est reporter et qui sort d'un bref séjour à l'hôpital psychiatrique. Et elle retourne, en fait, dans sa ville d'enfance pour tenter de résoudre le meurtre de deux adolescentes. Et c'est aussi d'ailleurs basé sur un bouquin qui s'appelle Sur ma peau de Gillian Flynn. Donc ça m'a vachement donné envie en fait de le voir en faisant des recherches sur ce qu'il avait fait.
Ouais, bah, voilà. Sharp Object, c'est une mini-série aussi en 8 épisodes.
C'est ça.
J'espère qu'elle n'aura pas de saison 2 parce que franchement...
Apparemment, c'est arrêté.
Ah bah j'espère parce que franchement, les 8 épisodes, ils sont trop bien. Enfin, moi, j'ai vraiment enchaîné les épisodes. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette série. Donc je te la recommande.
Regardez.
Chaudement. Cool. Et Amy Adams, qui joue le rôle principal, elle est incroyable. C'est beaucoup plus... Enfin, l'ambiance, elle est vraiment...
Plus dark.
Plus dark. Beaucoup, beaucoup, beaucoup
plus
dark. On
est déjà dans la psychiatrique.
Voilà. Puis on parle de meurtre d'enfant. Donc là, tout de suite, quand même, ça donne un ton. Bien sûr, le personnage principal, alcoolique, etc. Un peu l'enquêtrice, journaliste, etc. C'est vraiment superbe. Enfin, j'ai vraiment beaucoup,
c'est bien,
beaucoup
ça me conforte dans mon idée de regarder, alors.
Et d'ailleurs, du coup, c'est donc basé, comme tu dis, sur ma peau. Gillian Flynn, c'est aussi l'autrice du livre Les Apparences. Donc Gone Girl, pour ceux qui ont vu le film de David
Tellement
Fincher.
Tellement bien.
J'ai pas trop aimé le film.
Ah, moi j'ai adoré.
Moi non. Enfin, ok. Moi dans mes recos, je recommanderais un livre que je n'ai pas encore lu, mais un autre livre de Liane Moriarty qui s'appelle Le secret du mari. Et apparemment, c'est son gros best-seller. Elle l'a sorti avant Big Little Lies. Et je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, je me dis si c'est un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est la même ambiance que Big Little Lies, mais si c'est aussi le côté. Histoire de quartier avec ses secrets. Enfin, c'est le genre de livre que j'emmènerais bien en vacances.
Qui est c'est pas... vrai que ça me tente pas mal aussi.
Qui est pas très épais, qui se lit très facilement. Et voilà, moi j'ai quand même bien aimé la plume de Liane Moriarty. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment
ça
sympa.
Ça peut être intéressant de lire un livre qui n'a pas été adapté, parce que là on était influencé quand même par la série.
Ah oui, ouais, bah, moi,
ou alors de le lire avant. Mais c'est étrange si tu dis que c'est son best-seller et qu'il n'ait pas encore été adapté.
Ouais, je sais pas du tout où ça en est. Je me
les choix des producteurs, c'est parfois étrange. Hein.
Ouais, je sais pas si les droits...
Tellement de bons
livres
n'ont pas été
adaptés.
Bougez-vous
là, les producteurs.
Bougez-vous, Hollywood.
Donc, ou la France, hein, pour changer.
Non mais, qui est-ce qu'on mettrait dans les rôles principaux, dans les acteurs en France? On n'a quand même pas la même envergure que...
Quand même.
Ouais. Bon, Nicole Kidman et Reese Witherspoon, je sais pas comment on peut toper Vat, tu vois.
Ah, dans le style Nicole Kidman et Eva Green.
Ah. C'est vrai.
Ah oui,
c'est vrai, Eva Green qui est aussi excellente et qui est française, c'est vrai. C'était donc notre avis sur Big Little Lies, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous deux d'être venus participer.
De rien Pascal et de rien Victoire, c'est toujours un plaisir.
Oui, merci à vous deux et désolée pour ma voix que j'ai perdue
autour de vacances.
Dernier,
Oui, on sait bien que t'as fait la fête pendant une semaine à Budapest, Pascal, ne ment pas.
Pas du tout.
Sinon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram sous le pseudo Adapte-moi si tu peux. Bien sûr, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, donc iTunes, Google Podcasts, Podcast Addict, etc. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut !